Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado des attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Au menu aujourd'hui, on met de côté les propos théoriques ou géopolitiques un petit peu plus complexes de la politique ou de la communication politique en général. Et on discute avec Renaud, Mathieu, Megan et Marco de la situation globale en Russie, de Vladimir Poutine en général également, ainsi de la situation en Ukraine. Tout ça au balado des attachés de presse. À tout de suite tout le monde. Bon midi tout le monde.
Salutations.
Bonjour, bonjour.
Avant de vous souhaiter... Parce que là, je suis tout excité parce que c'est le retour de Mathieu.
Salut. Studio.
Ça faisait des années-lumière qu'on t'avait vu.
Je suis de retour.
Puis ça tombe bien parce qu'on parle d'un sujet que t'as... on va pouvoir l'introduire. Marco va pouvoir l'introduire en quelques instants. Mais t'aimes vraiment la situation, la géopolitique en général, puis ce qui se passe en Ukraine, notamment, t'en as parlé souvent en ondes, donc
ouais,
ça tombe très bien.
On considère peut-être des fois que je suis un peu fatiguant là-dessus, là, mais non, ça me passionne. C'est le genre de sujet qui me passionne.
Ce que les gens peuvent trouver fatigant, c'est que je dise bon matin à midi, là, mais ce que tu dis, là, inquiète-toi pas, t'es loin d'être fatigant, là, yes. Inquiète-toi pas. Merci, Megan, Renaud, d'être encore en poste le mercredi, toujours apprécié. Puis là, je laisse Marco introduire concrètement de quoi on va parler aujourd'hui.
Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment du conflit de la Russie et de l'Ukraine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même un conflit qui a des racines profondes. Là. C'est lorsqu'on décortique un peu l'histoire de la Russie dans les dernières décennies, on peut voir que c'est un conflit qui était... En fait, on pouvait le voir venir, on savait juste pas quand. On le sait, l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est le premier conflit européen depuis la guerre de Yougoslavie dans les années 90. Puis, en fait, on peut retracer certaines origines de ce conflit-là suite à la chute de l'URSS et de la première présidence, dans le fond, de la Russie sur Boris Eltsine. En fait, sous Eltsine, on va assister à une perte de puissance et de l'influence de la Russie, en fait, dans le monde, mais aussi dans sa région, au sein des pays proches, qui sont des ex-pays de l'Union soviétique. Puis aussi, on voit une montée aussi de l'OTAN et de l'Union européenne qui vont enclencher un processus d'intégrer ces anciens pays-là. Donc, comme on le sait, là, à la suite du démantèlement de l'URSS, en fait, on veut toujours affaiblir la Russie du côté des Occidentaux. Donc, on va vouloir intégrer les anciens pays qui faisaient partie de l'URSS au sein de leur organisation. Puis, maintenant, c'est autour de l'Ukraine. L'Ukraine, pendant longtemps, qui a été pro-russe, à la fois pro-occidentaux, pro-Europe. Mais là, c'est au tour de l'Ukraine de vouloir rejoindre longtemps et même l'Union européenne. Mais ça fait un pays qui potentiellement pourrait rejoindre ces organisations-là, qui a une frontière directe avec la Russie. Puis ça, la Russie, elle veut pas ça. Donc, c'est sous ce prétexte-là, aussi sous le prétexte d'une mission spéciale, évoquée par Vladimir Poutine pour désanifier, en fait, l'Ukraine, puis aussi pour freiner une forme de génocide des populations russophones, qu'on va envahir les régions, des régions ukrainiennes et le pays tout entier en février 2022. Maintenant, je vais laisser les Renaud, Mathieu, peut-être aller plus en profondeur sur ce que je viens de dire, parce que Renaud, au niveau des racines politiques, là, comme je viens de le dire, ça a débuté avec la chute de l'URSS. Là.
Oui, mais non seulement avec la chute de l'URSS, mais aussi dans la nature même du régime russe en soi, qui est un régime profondément impérial, puis qui a été marqué par des siècles où eux-mêmes y ont vécu les empires. On pense ici à l'Empire mongol notamment, et qui cherche vraiment à garder une certaine force au niveau de la scène mondiale, si on veut, puisque c'est une puissance civilisationnelle, on pourrait y revenir, là, mais en soi, ils sentent qu'ils sont les héritiers d'une politique et culturelle de quelque chose de très important au niveau de la civilisation.
Un héritage. Oui. Un héritage qui s'est formé à travers les siècles. Puis c'est pour ça que dans les discours des politiciens, notamment très marqués par Vladimir Poutine, l'histoire, c'est un pilier central. En fait, c'est même, si ce n'est pas le seul pilier central, l'histoire, c'est fondamental. Puis, je ne sais pas si tu voulais en parler un petit peu de Poutine.
On pourrait en parler, oui.
Oui, on pourrait en parler après.
Mais on peut partir là-dessus. Vladimir Poutine, c'est un homme de 70 ans maintenant. Et donc, né dans les 50.
Est-ce qu'il vieillit, ce gars-là, tu sais?
Oh oui.
On le voit.
On voit des signes, du fait qu'il vieillit. Mais c'est quelqu'un qui a parti à la base, lui, des services de renseignement dans l'Union soviétique, donc le KGB, le fameux KGB. Lui était posté en Allemagne de l'Est pendant plusieurs années. Et lorsqu'il y a eu l'effondrement de l'URSS, comme Marco l'a mentionné, il s'est retrouvé à être un des nombreux personnages avec beaucoup de réseaux. Et il a choisi comme beaucoup de gens, de profiter de la situation, puisque suite à l'effondrement de l'URSS, ça a vraiment été le chaos, là, parce que tout s'est effondré de façon brutale. Tous les actifs qu'avait l'URSS nationalisés en termes d'armement, d'industrie, différentes forces et d'infrastructures ont été vendus dans des gros encans généraux.
Et, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les oligarques. Ouais. Les oligarques, en très grande partie, leurs richesses sont issues du démantèlement de l'URSS. Comme tu as dit, en fait, c'est que toutes les structures qui étaient nationalisées ont été vendues en encan, comme tu as dit. Et puis, ben, eux ont pigrassé ça pour pas grand-chose. Et puis aujourd'hui, ce sont eux qui sont les milliardaires et les grands possesseurs de richesses en Russie.
Mm-hmm. Qui ont une influence au-delà en Russie, mais vraiment, qui commence à prendre encore plus d'expansion à l'heure actuelle. Ils ont une certaine influence au niveau international.
Si on veut même donner un petit exemple, l'industrie Gazprom, qui est la plus importante industrie de gaz en Russie, est possédée et a été vendue à l'époque du démantèlement de l'URSS. Fait que, tu sais, c'est des signes comme ça, juste pour dire que durant le démantèlement, ça a été difficile pour la population russe. Les inégalités étaient très fortes, l'inflation très forte. Les perspectives économiques étaient vraiment, pas très bonne.
Et c'est un euphémisme.
Ouais, vraiment, c'est un très gros euphémisme. La Russie, à l'époque, juste au sortir de l'effondrement de l'URSS, n'allait pas bien.
Tu parles de Gazprom, Mathieu. Est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, Gazprom est utilisé aussi comme un outil pour Poutine dans sa politique étrangère? Je sais pas si tu comprends ma question.
Oui, ben l'énergie en soi, c'est un des grands leviers de pouvoir de Vladimir Poutine. L'énergie, puis on l'a vu à travers l'histoire, la Russie, si on veut même transposer ça à l'URSS a développé son système énergétique assez rapidement en prenant en compte que c'était une arme potentielle pour plus tard. Puis aujourd'hui, on voit que c'est le cas. L'Europe est dépendante, du gaz et du pétrole russe. Aujourd'hui, un peu moins du pétrole, mais énormément du gaz russe. Et puis, en fait, tous les dirigeants, soit de l'URSS ou de la Russie d'aujourd'hui, sont conscients que l'énergie, c'est un des leviers majeurs de la puissance.
On jase Russie, Vladimir Poutine, Ukraine, et tout ce qui englobe ces sujets complexes et qui perdurent depuis de nombreuses années avant. Lorsqu'on parle de Vladimir Poutine et son régime, on met surtout la situation en Ukraine qui, là, au moment de tourner ce balado, ça va faire dans 9 jours, on le dit en ondes, dans 9 jours, ça sera 1 an que la Russie envahit l'Ukraine de manière concrète. Donc, on introduisait le sujet maintenant. Je crois qu'on voulait parler des élites russes.
Poutine, précisément, en fait, j'aimerais revenir à ce qu'on disait sur lui, puis de comment ça se fait qu'il voit l'effondrement de l'URSS et les suites de tout ça comme une humiliation puis une grande catastrophe. Il faut se mettre dans la perspective que la Russie, depuis 500 ans, a systématiquement été une puissance qui a fait trembler le monde, dont tout le monde avait peur. Et Poutine a grandi là-dedans. Il a grandi dans les idées de l'URSS, mais aussi de l'Empire russe. Globalement, la Russie, en fait, dès les années, dès le 15e siècle, donc là, je sais qu'on remonte loin, mais je pense que ça vaut la peine. La Russie s'est mise à se concevoir comme étant le troisième empire romain. Donc, on se considère vraiment les héritiers de quelque chose de grandiose. L'empire romain s'est effondré en 476, mais ensuite, il y a eu l'empire byzantin, donc l'empire romain d'Orient, si on veut, avec la religion orthodoxe. Cependant, cet empire-là s'est effondré 1000 ans plus tard, en 1453, lorsque les Ottomans ont pris contrôle de Constantinople. Et à ce moment-là, le plus grand pays orthodoxe outre l'Empire byzantin, c'était la Russie. Et en fait, la nièce de l'empereur Constantin XI, si je me souviens bien, en fait, le dernier empereur byzantin, le dernier empereur romain, donc la deuxième Rome de Constantinople, a marié le tsar russe. En fait, à cette époque-là, on parlait d'un grand prince de Moscou qui s'appelait Ivan III. Et donc, ça a comme créé une continuité, si on veut, dans l'idée de l'Empire romain. Et donc, Moscou est devenue la troisième Rome, selon eux. Et à partir de ce moment-là, justement, on entend le terme tsar, que vous avez peut-être déjà entendu. Tsar vient de quoi? Ça vient de César. Oui. Huh? Et donc, l'Empire russe, à partir de ce moment-là, va vraiment avoir une mentalité impériale qui va se développer, comme l'ont été l'Empire romain avant lui.
Et, en fait, comme guidé par un devoir d'être grand.
Oui.
C'est comme si la Russie s'était donné un devoir de grandeur, de puissance, mm-hmm. puis disons même d'exporter cette puissance-là.
Absolument.
De l'étendre.
Absolument. Puis cette extension-là, en fait, elle a eu lieu vers l'Est, vers la Sibérie. Je veux dire, ils ont conquis un territoire au fil de ces siècles-là qui est le plus grand aujourd'hui du monde, en termes le plus grand pays du monde étant la Russie. Et après ça, ils sont également étendus aussi à l'Ouest. Et vers les années 1700, ils sont devenus les dominants, la puissance clairement dominante du nord de l'Europe après avoir battu l'Empire suédois, à l'époque qui réunissait toute la Scandinavie. Et donc, suite à cela, on va avoir Catherine II qui va venir, qui va, elle, occuper la Crimée, qui jusqu'à l'époque appartenait aux Ottomans. Et à partir de là, il va y avoir aussi une grande colonisation russe de l'Ukraine et de la Crimée. Et donc là, ça peut expliquer un peu les phénomènes qu'on voit aujourd'hui. Suite à cela, année 1800, la Russie est l'armée la plus puissante suite à la défaite de Napoléon. En fait, c'est eux qui vont marcher sur Paris lorsque Napoléon va s'effondrer.
Vous avez sûrement entendu parler de la campagne de Napoléon. C'est un terme qui est souvent utilisé. Ça s'est passé en direction de Moscou. Puis finalement, les Russes ont gagné.
Mm-hmm. C'est ça. Napoléon a réussi à conquérir toute l'Europe continentale au complet, sauf les Russes, essentiellement. Là. Et donc, parce que les Russes ont résisté d'une façon absolument terrible.
Puis ça, je veux pas te couper, aller trop vite, là, mais c'est aussi un discours qu'on revoit aussi à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument.
La Seconde Guerre mondiale, les nazis, les Allemands ont conquéri exactement comme Napoléon toute l'Europe, excepté la Russie. Mm-hmm. Fait que ce discours-là d'un peu d'exceptionnalité du peuple russe, il est fort, puis il est renforcé par des éléments historiques récurrents.
Qui viennent... Confirmer. Confirmer, mais ça vient... je sais pas comment l'expliquer. C'est pas qu'il y a un mur de protection envers la Russie automatique, c'est juste je veux pas dire que c'est anecdotique, là, mais il y a des raisons qui expliquent ça qui vont sont pas nécessairement dues à un système politique, à une...
C'est des siècles et des siècles d'histoire qui habitent la conscience.
C'est ça.
Des dirigeants du pays. Et donc, quand on a l'Union soviétique qui commence à stagner dans les années 70 et qui se met à s'effondrer, et on va avoir Mikhail Gorbatchev, qui va devenir le secrétaire général de l'URSS vers 85, c'est même moins bon. 85,
exact. Ça, en gros, ça veut dire c'est le boss.
Oui, exact. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un démantèlement progressif de l'URSS qui va avoir lieu et qui va finir de façon brutale avec la chute du régime en 91.
Justement, comment est vécu justement ce... En fait, on pourrait quasiment dire que c'est une humiliation aussi pour l'URSS.
Absolument.
Que ça se finisse comme ça. Comment c'est vécu par le peuple ou les élites?
C'est des souffrances.
Rappelons que Poutine est né durant la période de l'URSS où elle était grande, puissante. Ça, il faut quand même bien le rappeler parce que c'est récurrent dans son discours. Puis, lorsque l'URSS tombe, lui, il perd évidemment sa job, s'en va de l'Allemagne. Ben, l'Allemagne était déjà en partie, en 89, réunifiée. Là. Mais et puis, perd sa job, etc., etc. Et c'est vécu comme un moment traumatisant parce qu'il revient chez lui dans une maison, dans une vie difficile. Dans une vie difficile, dans une maison surpeuplée avec des enfants, tout ça. Fait que pour lui, c'est vécu comme un moment humiliant.
Oui, puis aussi, il y avait des pénuries partout à ce moment-là. L'État, en tant que tel, qui était supposé fournir aux citoyens dans le communisme, là, donc il n'y a pas de libre marché qui assure le, la libre circulation des produits. L'État, qui avait la responsabilité de ça, était en train de faillir à sa mission. Les gens n'avaient plus de quoi manger. Tous les étalages étaient vides, essentiellement. Les gens se battaient dans les épiceries pour avoir les derniers morceaux de pain. Et ils se retrouvaient à devoir mendier dans la rue pour pas grand-chose. Il y a eu beaucoup de gens qui ont émigré du pays, qui sont tombés dans la drogue, l'alcool. Il y a eu un creux dans l'espérance de vie des hommes à cette époque-là. En 94, l'âge moyen d'espérance de vie des hommes était de 57 ans.
Aïe, 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 c'est relativement bas.
C'est très, très bas. Puis en moyenne, même encore aujourd'hui, puis aussi dans les années qui précédaient, c'était d'environ 65 ans là, pour les hommes. Les femmes, c'est beaucoup plus élevé, c'est environ 75 ans, 77 ans.
Oui.
Donc, de ce que je comprends, les gars, c'est, dans le fond, suite à la chute de l'URSS, vraiment, on assiste quasiment à une catastrophe humaine aussi.
Absolument.
Économique, sociale, c'est...
Sur tous les plans, politique aussi.
Oui, hein? Oui,
puis, oui. Comment on fait pour transférer ce traumatisme-là que Poutine a vécu jusqu'à sa montée à la présidence?
Pour ça, il faut parler de Boris Eltsine, en fait. Lui, Boris Eltsine, c'était le président de la République russe à l'intérieur de l'URSS. Donc, l'URSS était une fédération de plusieurs républiques indépendantes, ben, semi-indépendantes, autonomes. L'essentiel des républiques ont fait sécession, sont devenues indépendantes. On pense notamment à l'Ukraine, le Kazakhstan, le Bélarus, vous voyez l'idée, les pays baltes. Et donc, le dirigeant de la Russie, en fait, a fait un coup d'État contre Gorbatchev en 91. Donc, Eltsine a pris le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il va mettre en place ce qu'on appelait la thérapie de choc. La thérapie de choc, ça a été conseillé par des financiers, des économistes américains, de dire, là, il faut que de façon radicale, extrêmement rapide, tu réformes ton pays parce que ça ne fonctionne plus, le communisme.
Donc, rentre dans le capitalisme.
Ouais,
fort.
Puis de façon brutale, comme ça le dit dans le nom. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les actifs, comme on disait tantôt, les actifs industriels, par exemple.
Bon, qui appartenait à l'État.
Mm-hmm. Et on dit, on va en faire des bons, des actions dont chaque citoyen va pouvoir être propriétaire. On va distribuer des actions aux citoyens pour qu'il y ait des parts dans les industries, dans les entreprises. Donc, sur le plan du papier, c'est bon. Tu sais, tout le monde aurait une propriété relative, une source de revenus.
Mais des milliers de coopératives.
Ouais, un petit peu.
Genre de Desjardins, mais russe.
L'idée, c'était que les gens aient des actions qui puissent faire fructifier puis qu'ils allaient avoir un incitatif à travailler pour rentabiliser leur entreprise. Sauf que le problème, c'est que les gens ne pouvaient pas manger. Donc, les gens qui avaient accumulé un petit peu de capital parmi les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hey, tes bons de tes actions que tu as en ce moment là, sur telle usine ou sur telle pipeline, garde, je vais te les acheter, puis tu vas pouvoir manger correctement, tu vas pouvoir payer ton appartement. Et donc, tu vas pas avoir à mendier, tu vas pas avoir à te prostituer, à toutes sortes de choses, parce que c'était vraiment difficile. Là.
Oui.
Et les gens, ils ont tout pratiquement cédé les parts qu'ils venaient d'obtenir. Et ça a été accumulé entre quelques mains. Et là, on revient au phénomène des oligarques.
Ouais.
Quelques personnes qui ont justement pris l'essentiel de ces bons-là, puis qui ont aussi beaucoup capté, pris à la source, qui ont pillé différents revenus à différents endroits avec la mafia, se sont retrouvés très, très, très puissants. Et ça, c'est les oligarques.
Et puis, ils sont rendus aujourd'hui indispensables à l'univers politique russe. Ils sont rendus indispensables. Lorsqu'on parle de décision de Vladimir Poutine, ben, il y a toujours des gens un peu derrière où il va consulter d'autres personnes. Comme j'ai parlé tout à l'heure, la compagnie Gazprom, c'est une énorme compagnie, milliards, milliards, milliards de dollars. Ils sont jamais bien, bien loin de la sphère proche du président.
Justement, Gazprom, justement, va être... le fait que Gazprom, dans le fond, devienne une super puissance énergétique, ça va être vécu aussi par les élites comme étant une réussite. Là. On va être heureux, là, dans une certaine manière. On va assister un peu au début de... En fait, la fin de l'humiliation, ça passe.
Ouais, mais
la renaissance,
ça a pris du temps.
Ça prend du temps.
Parce que là, t'as quand même...
Gouffre économique.
Mettons que t'es en 91, là. T'as solide 8 ans de bordel puis de gouffre carrément là. Puis ça, c'est les 8 ans de la présidence Eltsine. Eltsine, en fait, au début, il y avait un certain optimisme par rapport au programme, mais ça va pas prendre longtemps là. Ça va prendre à peu près un an ou deux qu'il va se rendre compte que ça fonctionne pas, puis qu'il a perdu le contrôle sur le pays parce que en fait, tout est corrompu, tout est devenu corrompu par les oligarques qui contrôlent des villes ou la mafia des fois. Ben, par exemple, fun fact, Poutine, lui, il était à Saint-Pétersbourg, il était très proche du maire, puis il faisait beaucoup de deals avec la mafia dans ce temps-là, parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais Eltsine, lui, il va sombrer dans l'alcool, puis il va se mettre à être vraiment une honte nationale, mais un peu à symboliser l'état de la Russie. Pour l'anecdote, il y avait un écrivain russe qui s'appelle Pushkin, grand écrivain russe du début du 19e siècle, dont on fêtait le 200e anniversaire de naissance en 1999. Et Boris Eltsine est arrivé à la télévision pour faire une allocution sur ce sujet-là, très confus, et il va dire « Ouais, j'ai Pushkin, grand écrivain, je l'ai checké hier, puis hey, c'est plus compliqué que dans mes souvenirs quand j'étais à l'école primaire. Hein. » Il dit ça à la télévision, là, aïe, aïe. En public. C'était vraiment une honte. Là. Vous voyez le personnage. Sinon, aussi, des fois, dans des apparitions publiques, il était sous, puis il se mettait à un moment donné, il y avait un orchestre, puis il vole la baguette du chef d'orchestre, puis il se met à faire n'importe quoi, des signes. Une vraie honte, à un moment donné, aussi. Il riait avec Bill Clinton, le président américain, parce qu'il s'était saoulé. Ça, c'était à Washington.
Ah, il n'y a pas une photo, justement, ou une vidéo, ce qu'on voit les deux. En fait, ils éclatent de rire. Là, je pense que ça se passe en 98, là, cet événement-là, justement, parce qu'il était trop saoul, les deux.
Fait que si on revient un peu à ça.
Ça va pas bien, qu'elle dit
c'est ça. C'est
une savoure juste pas bien.
Exactement.
Puis il y a ben, voulais-tu dire?
Je voulais juste dire, en fait, que Boris Eltsine configurait un peu à la fois une humiliation, mais un peu une certaine faiblesse de la Russie. Mm-hmm. Comme si la Russie avait baissé les bras par rapport à son histoire, par rapport à son devoir de grandeur.
Ouais.
Fait que Boris Eltsine n'incarnait pas vraiment ce que Poutine veut lui correspondre.
Mm-hmm. C'est ça. Gorbatchev avant lui aussi également, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de CD, puis il avait mené à l'effondrement de l'URSS. Puis. Si je peux parler peut-être brièvement de la Tchétchénie. La Tchétchénie est une république musulmane du Caucase qui fait aujourd'hui partie de la Russie, mais qui, dans les années 90, avait déclaré son indépendance. Et la Russie refusait ça. Donc, Eltsine, vers 94-95, a envoyé l'armée pour reprendre le contrôle de la Tchétchénie. Et ça a été un échec lamentable.
Ça a été une boucherie aussi.
Oui, oui, absolument. Et ça a été vraiment... une humiliation parce que la Tchétchénie, là, c'est pas gros. C'est pas beaucoup de monde, là. C'est l'équivalent à peu près de l'Acadie, là, je veux dire. Puis on parle de la Russie ici. Donc, c'est une humiliation profonde pour la Russie. Et ils sont obligés de battre en retraite. Sauf que là, Poutine, lui, pendant ce temps-là, il fait son chemin en coulisses. Tranquillement, pas vite, il prend contrôle des services de renseignement à la fin des années 90.
Ouais, le KGB, là.
Ouais. Puis, il y a une grosse crise économique en 98. Puis là, ça va plus bien. Le premier ministre est mis dehors et il devient premier ministre. Et qu'est-ce qui arrive en même temps?
Mais comment il se ramasse premier ministre?
Ouais. Il se ramasse premier ministre à travers ses contacts puis à travers l'incompétence
de tout le
grâce
monde.
De l'ensemble de la classe politique. Et il est lié au FSB puis il va arriver à un événement controversé, très controversé. En fait, il va avoir des immeubles, des HLM à Moscou qui vont être pas bombardés, mais il va y avoir une bombe qui va sauter à l'intérieur, puis il va y avoir 300 morts. Ouais. Et là, on sait pas. Le gouvernement russe, Vladimir Poutine, a dit que c'était les Tchétchènes qui avaient fait ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un inside job, comme on dit en anglais, donc que ça aurait été comme planifié de l'interne ou que les Tchétchènes auraient été poussés à faire cet attentat-là. Et là, qu'est-ce que Poutine va faire? Il va dire c'est inacceptable. Puis là, on commence tranquillement pas vite à voir l'islamisme, le terrorisme devenir vraiment un sujet d'actualité là, en 99. Et il va dire c'est les terroristes, les Tchétchènes, on va les buter jusque dans les chiottes. Il dit ça carrément, littéralement. Et il va dire ça en public, à la télévision. Il va démontrer une image de force. Il est encore premier ministre. Et au même moment où Eltsine, on est en 99, est vraiment une honte absolue,
L'image de faiblesse, là, on revient à ça.
C'est ça. Donc là, il va vraiment avoir un décalage entre les deux personnalités. Poutine va retourner en guerre en Tchétchénie. Il va y aller de façon brutale, comme tu as dit, une vraie boucherie. Il va juste bombarder tout ce qu'il peut.
Ouais, c'est violent.
Et bon, c'est sûr que c'est une méthode plus efficace, entre guillemets, malheureusement. Et Poutine va reprendre la crédibilité. Donc, Eltsine va démissionner. Poutine devient président le 31 décembre 1999. Et à partir de ce moment-là, le pays va changer.
Puis, tu sais, le pays va changer. On met fin à une certaine forme d'humiliation avec le départ de Eltsine. Ouais. Comment que la Russie fait pour se reconstruire?
Si je peux y aller, c'est que Vladimir Poutine fait une espèce de contrat social. Vladimir Poutine dit deux choses. Un, si les citoyens restent à l'extérieur du monde politique, vous n'aurez pas de soucis. Ça, c'est le premier. Puis deuxième des choses, si vous acceptez que je prends en main puis que je prends tous les leviers, la croissance économique va être là. Ce sont les deux postulats que Vladimir Poutine fait et l'emporte, en quelque sorte.
Ouais. Puis également, il va également faire cette affirmation-là aux oligarques qui, jusqu'à l'époque, contrôlent le pays. Il va dire, bon, on va faire un deal. Hein? Vous aimez ça faire des deals, vous êtes des hommes d'affaires. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire vos petits trucs de captation des richesses économiques et vous allez me devoir jurer serment de loyauté. Et vous ne mêlez pas d'affaires politiques. Et il va en avoir un parmi eux, je me rappelle plus de son nom, un oligarque début des 2000, qui va dire « Non, non, moi je t'aime pas Vladimir Poutine, je vais me présenter aux élections présidentielles, blablabla, je vais dénoncer ta corruption. » Et, oh, quel hasard, il va être condamné, arrêté pour corruption lui-même et mis en prison. Donc, on voit le début de la
d'une
méthode Poutine.
Puis d'un climat politique assez particulier.
Ouais. Autoritaire,
point.
Ouais. Puis, en fait, ça revient vraiment à quelque chose qui est une tangente dans l'histoire. J'aime revenir à l'histoire, mais c'est vraiment aussi ça qui habite Poutine. C'est la verticalité du pouvoir. Russie n'est pas une terre de démocratie, historiquement parlant, culturellement parlant. C'est pas quelque chose qui a été généralisé. La seule époque de démocratie, en fait, c'est les années 90. Puis je veux dire, c'était la honte, c'était la chien-lit au niveau social.
Il n'y avait pas de colonne, ça allait nulle part.
Difficile, c'est ça. Puis même là, démocratie, on peut mettre des beaux guillemets. Là. Fait que Poutine, c'est ça. Il va vraiment reprendre le contrôle, puis Gazprom, à ce moment-là, va vraiment prendre de l'expansion. Il va adopter une attitude... une apparence du moins libérale au niveau du commerce, de l'ouverture au système dominé par les Américains, à l'Europe. Il va par exemple à ce moment-là faire les deux pipelines Nord Stream 1 et 2 avec l'Allemagne. Il va avoir beaucoup de relations.
Je peux même rajouter à ça, là, tu me mettre la puce à l'oreille. Année 2001. Ça fait à peine un an et quelques jours que Vladimir Poutine est en poste. Lorsqu'il y a eu les attentats en septembre 2001, c'est le premier à avoir appelé le président américain pour lui offrir son aide, son support. Fait que ça, on voit que Vladimir Poutine, dans les premières années, dans ses premiers mandats, s'est rapproché un petit peu de l'Occident. Rapproché est un grand mot, là. Disons qu'il veut un petit peu dégeler les relations qui avaient été...
Ouais.
C'est quand même intéressant que tu le mentionnes. On dirait que ça fait partie d'un plan, parce que tu recules en 2001 puis en 2023, on s'entend que c'est pas pareil. Là,
puis,
c'est quand même particulier.
Une raison à ça, c'est qu'il y avait la Russie elle-même à reconstruire. Puis ça allait prendre déjà une bonne couple d'années puis beaucoup de volonté politique.
Oui.
Donc, il devait se concentrer là-dessus avant de pouvoir ambitionner si on veut reconquérir l'espace russe traditionnel qui inclut les ex-républiques comme l'Ukraine.
Donc, je comprends bien avec Poutine, on commence à placer déjà les pions au début de sa présidence.
Ouais.
En fait.
Présidence forte.
Forte, d'une verticalité, comme tu l'as dit.
Puis surtout une centralisation du pouvoir.
Centralisation des pouvoirs aussi. Est-ce qu'on pourrait dire aussi un régime de terreur
envers
ses opposants?
Envers les opposants, ça commence. Il y a des choses qui a été dit, notamment avec des opposants qui commencent à être enfermés, certains un peu plus tard qui ont été assassinés bizarrement. Là.
Qui disparaissent dans un accident d'avion étrange.
Ouais, ils sont empoisonnés même s'ils ne sont pas en Russie, des trucs comme ça.
Mais il n'y a 5% qui se sont posés des questions, qui ont commencé à peut-être questionner les régimes, justement, ils étaient au début.
Voilà, ben et là revient le contrat. Si vous ne vous mêlez pas de politique, tout va bien aller. Puis si vous acceptez que je prenne les leviers en main, tout va bien aller. Mm-hmm. Ceux qui ont fait, qui n'ont pas signé ces contrats-là, c'est mal passé pour eux. Fait que et là revient. Fait que les gens, oui, probablement, s'en rendaient un petit peu compte. Pas beaucoup, parce que n'oublions pas que Vladimir Poutine a rapidement pris en main les médias, ce genre de choses-là. Mais les gens se sont rendus compte que, ouais, moi, si je reste loin de la politique, tout ça, ça va bien. J'ai des fruits et des légumes. Rappelons que on est des années 90, on n'avait pas ça, mais avec Poutine, ah, là, ça va, on l'a, mm-hmm. Fait qu'on va, on va accepter. On va accepter.
Ça, il y a quand même, j'imagine, une certaine partie du peuple russe qui, ouais. Au début, qui est comme, oh wow, la prospérité économique, enfin, on la vit, on peut maintenant commencer à vivre au lieu de survivre.
Ouais. Exact. Puis, si on peut, je peux ajouter, là, pardon, la Russie, comme tu l'as mentionné, il y a un historique fort. Donc, j'imagine que au niveau national, les individus sont fiers d'être russes. Donc, ça se perpétue avec ça. Donc, cette mentalité-là est répandue. Donc, quand on voit des légumes sur la table, ben, on se pose moins de questions puis on se dit, ah, ça revient. Ouais, on est en fin de retour. Ouais. T'sais. Puis, c'est un jeu de plein de facteurs qui explique ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est
puis
fascinant.
Il y a un décalage entre la perception occidentale de la Russie puis la perception des Russes eux-mêmes de leur pays. On pense par exemple à Gorbatchev. Gorbatchev qui est mort récemment, en fait, en août 2022. C'est quelqu'un qui était vraiment louangé au niveau de l'Occident. On disait, ah, l'homme de la paix, oui. L'homme de l'ouverture, de la réconciliation, du désarmement. C'est facile à dire pour les Occidentaux parce qu'ils n'ont pas vécu les conséquences de tout ça. Mais les Russes, eux, ils ont vécu justement l'effondrement que suivi Gorbatchev, qui était en partie causé par sa politique. Donc, c'est quelqu'un envers qui ils ont beaucoup de ressentiment parce que Gorbatchev associe ça aux pénuries, comme on disait, tout ça, et au pillage qui s'en est suivi. Et Gorbatchev est probablement le dirigeant le plus libéral, si on veut, ou le plus ouvert, le plus proche de la démocratie que la Russie a connue. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que les gens se posaient des questions par rapport à l'autoritarisme de Poutine? Mais c'est pas mal tout ce qu'ils ont connu, l'autoritarisme, tu sais. Ceux qui ont connu l'Union soviétique, la censure, t'sais, ils savent à quoi s'en tenir, puis ils se disent, c'est ça, t'sais, si j'ai de la prospérité, là, regarde, là, je vais laisser faire.
Puis à certains égards, à certains moments, c'était un peu moins pire que l'URSS, parce que l'URSS, t'avais toutes sortes de censures assez importantes, le politburo, tout ça.
Puis ça, c'est sûr que ça reste un pays où il y a de la polarisation, parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié du libéralisme économique et politique des années 90 et début 2000, qui étaient contents d'avoir cette liberté-là. Cependant, c'est un courant minoritaire tout de même. Puis c'est peut-être aussi la jeunesse, sauf que la jeunesse en Russie est minoritaire. Parce qu'il y a très, très, très peu de naissances et ça fait plusieurs décennies en fait, que le taux de natalité en Russie est très faible. Donc les vieux, ben comme dans ben des pays européens occidentaux, la population est assez vieille.
Excuse-moi, Mathieu.
Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à pourquoi la population, ou en tout cas, est-ce que la population a fait quelque chose par rapport à ça? Il faut aussi rappeler que dans la société russe, il y a une normalisation de la violence. C'est normal qu'il y ait de la violence, c'est normal d'être autoritaire. Il y a une acceptation. C'est comme, ah ben la vie, c'est comme ça, parce que c'est comme ça.
Des traits culturels.
Mais partout, ouais. Partout dans la société russe, c'est violent. Partout, que ce soit institutionnel, que ce soit dans le cercle familial, que ce soit les relations hommes-femmes, ce genre de choses-là, la violence est omniprésente dans la société russe. Puis ça rappelle aussi un petit peu avec... il y a aussi des problèmes, tu sais, on a dit tantôt d'alcool, ce genre de choses-là. La violence aussi revient.
Le cliché russe, oui. C'est quelqu'un de violent qui boit de la vodka.
Ben,
malheureusement, c'est ça.
Voilà, on dit un cliché. Quand on regarde les chiffres, c'est, ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de tout ça en Russie. Il y a un problème d'alcool et de violence en Russie. Les violences sexuelles, ce genre de choses-là.
Oui.
Oui, c'est ça va très aussi, présent.
Violence conjugale.
Oui, oui très beaucoup.
Présent. Tu parlais de jeunesse, ce qui est en minorité, mais plus que la technologie avance, plus que on est interconnecté par-dessus les médias sociaux et tout ça, qui sont utilisés par les jeunes Russes. Bon, est-ce qu'ils sont censurés? Probablement, mais c'est sûr qu'il y a qui aperçoivent des réalités différentes en Occident ou ailleurs, puis qui se disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? pourquoi j'ai pas accès à ça, puis ça se pose des questions. C'est quand même un enjeu qu'on ça risque peut-être ça a certaines retombées là.
Mais Vladimir Poutine, il l'a pris en compte. Il est très intelligent, Vladimir Poutine. Les gens qui disent qu'il est fou, tout ça, moi, je n'y crois pas. Vladimir Poutine est très intelligent. Et puis, depuis des années, il fait son propre Internet. Ça paraît niaiseux, mais depuis un certain temps, il y a un réseau Internet centralisé en Russie. Et puis, ils ont aussi leurs propres réseaux sociaux. Ils ont leurs propres réseaux sociaux qui fait que l'influence occidentale n'est pas si grande que ça. Elle l'est, évidemment, notamment chez les jeunes, assez marquée. Mais pas tant que ça. Parce que les réseaux sociaux comme Telegram, ce genre de réseaux sociaux très populaires, très, très populaires en Russie, c'est fait en Russie. Ouais. Les réseaux sont en Russie. Puis c'est pas Facebook, Instagram.
Puis si je peux te dire quelque chose, la jeunesse russe est divisée aussi. Et tu peux pas prendre ça comme un groupe monolithique. Il y a beaucoup de gens plus libéraux qui ont quitté le pays, notamment vers la Géorgie, qui vivaient ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont cette perception qui leur a été nourrie, mais qui est aussi légitime quand même, d'un rejet des valeurs occidentales puis des valeurs libérales. On peut penser, bon, je sais que c'est plate à dire, mais c'est une autre culture, tu sais. Mais les droits LGBT, par exemple, ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de jeunes russes et tchétchènes aussi, est vraiment rejeté parce que eux, ils sont davantage dans la perception du virilisme puis de tout ce qui vient avec. Donc, et c'est représenté aussi, ils font une association de l'Occident avec la faiblesse de Poutine, de Eltsine, pardon, et aussi la faiblesse supposée qui vient avec la l'émasculation masculine, ce genre de choses-là. Donc, je sais pas si vous comprenez l'émasculation.
C'est vu tout ce qui est LGBT, c'est vu un peu comme une espèce de propagande occidentale sur la Russie.
Mm-hmm. Ouais, on parlait de à quel point la violence et la force, c'est quelque chose qui est présent dans la culture et la société russe. Je trouve que c'est une occasion de revenir sur la mentalité de Vladimir Poutine puis de comment est-ce qu'il voit le monde. On se retrouve donc encore l'effondrement de l'URSS qui amène l'humiliation, qui amène un sentiment de faiblesse. Et Vladimir Poutine reconstruit la Russie durant les années 2000. Durant les années 2010, fin années 2000 aussi également, il se rend compte que okay, l'armée russe a retrouvé un bon niveau de compétence, l'économie a retrouvé une stabilité. Donc, je peux aller davantage de l'avant. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment en parallèle en Europe? Il se passe que l'Europe de l'Est est en train de, tranquillement, pas vite, rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, alors que c'était des pays qui, traditionnellement, étaient dans le giron...
La zone d'influence russe, oui.
Ouais, exact. Donc là, Vladimir Poutine se dit, OK, ça, c'est un mouvement qui est dangereux. Faudrait pas que ça se rapproche trop de mes frontières.
Parce que pour lui, c'est une zone tampon.
Exact.
C'est censé être une espèce de d'éponge entre le monde occidental, qui est vu un peu négativement par Vladimir Poutine, et le monde russe, mm-hmm. qui est voilà, la force. Tout ça.
C'est ça. Donc, Vladimir Poutine était à la base à l'aise à l'idée d'une finlandisation de ses pourtours géographiques. La finlandisation, en fait, ça fait référence évidemment à la Finlande, qui, durant la guerre froide, située entre l'Occident et directement aux portes de la Russie, était neutre et dans une relative sphère d'influence russe. Donc, il y avait une démocratie libérale en Finlande, tout ça. Cependant, la Finlande n'avait pas toute la marge de manœuvre pour faire n'importe quoi. La Russie pouvait dire, là, faites attention.
Donc, fallait pas que la Finlande devienne une menace pour la Russie.
Exactement. Et Poutine concevait l'Ukraine notamment comme ça. Il disait... Tant que ça ne devient pas une menace pour moi puis que je garde un certain levier d'influence sur l'Ukraine, je suis correct. Sauf que là, arrive 2014.
La Crimée. Là.
Oui, mais avant la révolution du Maïdan.
Oh oui, c'est vrai.
En fait, le président Yanukovych, président ukrainien à l'époque, pro-russe, commençait à se rapprocher de l'Union européenne parce qu'il y avait vraiment une volonté dans le pays parce que les Ukrainiens étaient comme « Mon Dieu, c'est là qu'est la prospérité, c'est de ce côté-là, les libertés, on veut ça. » Et Yanukovych, qui à la base était plus du bord de la Russie, penchait vers l'Union européenne pour aller du bord de la montée populaire. Mais là, après ça, Poutine y a parlé, puis il a fait « OK, il m'a retourné vers toi, Poutine, m'a retourné vers la Russie. » Et là, le peuple n'a pas pris pantoute.
Des manifestations ultra-violentes.
Oui.
80 morts que j'ai dans les chiffres. 80 morts pour des manifestations, c'est beaucoup. Ça a pété fort.
Donc, c'est ça, Yanukovych part, quitte Kiev et s'en va en Russie en hélicoptère. Et à partir de ce moment-là, l'Ukraine va changer radicalement. Ben, oui, assez radicalement quand même. Il va y avoir beaucoup de fonds européens, occidentaux, américains qui vont commencer à venir dans le pays. On va mettre en place, on va essayer d'éradiquer la corruption avec plus ou moins de succès.
Ouais.
Et on va aussi enlever le russe des langues officielles à ce moment-là. Puis ça va mettre le feu aux poudres dans l'est du pays.
Oui, parce qu'il y a quand même des populations russophones qui sont présentes dans l'est du pays, là, dans les régions comme Luhansk, Donetsk.
C'est ça, ce qu'on appelle le Donbass.
Zaporizhia, toutes les régions du sud.
La Crimée. La Crimée est très, 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 très majoritairement très russe au niveau ethnique. Donc, Poutine, à ce moment-là, va saisir l'occasion. Parce que, puis, non seulement saisir l'occasion, mais il voit ça comme quelque chose d'inacceptable, là, que l'Ukraine s'en aille dans le giron occidental. Il va annexer la Crimée. Il va soutenir des séparatistes dans le Donbass.
Des référendums aussi, je me souviens bien à l'époque aussi, qui va avoir lieu. Pour, mais référendum, on met des gros guillemets.
Ouais.
Ouais. Quand il y a l'armée sur le territoire. Là,
c'est ça. Arrangé avec le code des vues, pas mal. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Poutine, à ce moment-là, va vraiment chercher à garder l'Ukraine dans son giron, sauf que l'Occident ne veut pas céder de son côté parce que il faut aussi voir les pays de l'Europe de l'Est, leur perspective. Je sais qu'ici, on centre sur la Russie, mais c'est important d'en parler. La Pologne, par exemple, là, ils ont vécu des siècles d'oppression russe. Leur peuple s'est fait massacrer dans des insurrections.
Ils se sont fait envahir à multiples reprises.
Ça, à chaque fois qu'il y a une guerre, la Pologne, quasiment
un vieux
dicton.
Puis on parle même plus loin que la Seconde Guerre mondiale. Avant, le royaume de Pologne se faisait dominer.
C'est ça. Ouais. Il y a eu des insurrections dans les 1800. C'est ça, vraiment réprimé dans le sang. Puis on niait carrément le droit des Polonais à décider par eux-mêmes. Puis la Russie avait vraiment une attitude paternaliste par rapport aux autres peuples slaves. Il y avait l'idéologie du panslavisme et que la Russie, c'est ça, c'est les protecteurs de tous les peuples slaves. Donc, les peuples slaves, ça inclut, par exemple, Pologne, Tchécoslovaquie,
Serbie.
Tous les pays des Balkans, généralement.
Bulgarie. Donc, il y a vraiment les peuples vont commencer à être irrités, puis ils ont aussi vécu l'enfer du communisme, là.
Oui.
C'était pas beau. Puis ça leur a été imposé de force par l'Union soviétique.
Puis quand ils ont essayé de s'en défaire, notamment en Tchécoslovaquie, l'armée russe rentrait avec des tanks, puis non, ça reste comme ça.
C'est ça. Puis l'Ukraine a vécu l'Holodomor également dans les années 1930. Il y avait des famines dans l'Union soviétique dans les années 30. Et en fait, l'Ukrainien, c'est le grenier de l'Union soviétique à cette époque-là. Et l'État central de Moscou va aller saisir par la force les récoltes ukrainiennes pour les envoyer dans l'ensemble du pays. Puis les Ukrainiens vont se retrouver à peu capables de manger. Puis en même temps, les Ukrainiens avaient du nationalisme beaucoup. Donc, on va chercher à les mater en arrangeant leur mort massive, si on veut. Donc, il y a beaucoup de traumatisme là, en Ukraine également. Donc, ça fait partie de cette volonté populaire-là d'affaiblir l'empire russe de Moscou qui n'arrête pas de taper sur la tête de tous les peuples d'Europe de l'Est.
En conclusion, les gars, en 20-25 secondes environ,
En gros, les pays de l'ex-URSS se rapprochent de l'Occident, à la fois de ses institutions, mais aussi les opinions publiques. Pour Poutine, c'est inacceptable. Pour lui, les pays de l'ex-URSS, c'est un État tampon. C'est censé être de servir d'espèce de frontière entre l'Occident et la Russie. De voir que l'Occident se rapproche de la Russie, c'est une menace. Et voilà pourquoi il a intervenu en Ukraine.
Écoutez, on peut pas en fait avoir de meilleure conclusion que ça, que ce résumé de 30 secondes pour des dizaines de décennies. Pour nous, pour les attachés de presse, ça va être la conclusion, en fait. Merci Renaud pour la participation. Mathieu aussi, qui a fait ton grand retour.
Yeah!
Oh, je m'ennuyais. Je m'ennuyais tellement. Puis merci Megan d'être là. Écoute, moi, je trouvais ça fascinant de te regarder, écouter les Mathieu et Renaud.
Non, non,
parler.
Mais c'était extraordinaire, là. Pour vrai, l'information que j'ai appris aujourd'hui, j'ai adoré.
Ouais. Non, ouais. Mais dans pas long, on va te convaincre de changer de cheminement. On va te convaincre de ne pas être en droit puis de t'en venir en politique publique ou en relations internationales.
Bonne chance.
Parfait. Donc, sur ce, c'est l'heure du générique. Encore une fois, merci beaucoup Mathieu, Renaud et Megan. Donc, pour en fait ce balado très enrichissant et surtout très, on va dire comme ça, éducatif. Même moi, j'en ai appris des choses sur l'histoire de la Russie, de Vladimir Poutine aussi, même de la chute de l'URSS. Pour nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode des Attachés de presse, les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bonne fête de journée tout le monde.